les raisons pour lesquelles il a été condamné, c'est si on suit, disons, ce scénario politique, c'est parce que il était considéré comme inspirateur des factions oligarchiques dans la cité. C'est aussi parce qu'il exerçait un enseignement qui manifestement troublait les Athéniens, notamment en raison du lien très particulier qu'il avait noué avec ses disciples. C'est aussi peut-être parce qu'on lui imputait un type de religiosité particulière, mais sur ce plan-là, c'est quand même on est sur des choses qui sont assez difficiles à établir. Mais c'est pas des positions précises sur lesquelles les Athéniens auraient des idées extrêmement claires. Voilà.
La question quand même de savoir, avant d'en arriver aux modalités même du procès, du fonctionnement judiciaire de l'époque, qui était Socrate, pour autant qu'on puisse en juger, essayons d'écouter certaines descriptions qui ont été données de Socrate, qui le mettent en scène, et souvent pour s'en moquer, voici un extrait des Nuées d'Aristophane.
Quel est-il donc, celui-là, qui est juché dans cette tombée suspendue?
C'est lui.
C'est qui, lui?
Eh bien, lui est Socrate.
Oh, Socrate! Allez, va-toi! Appelle-le-moi bien haut!
Appelle-le plutôt toi-même, je n'ai pas le temps!
Socrate! Mon petit Socrate!
Pourquoi m'appelles-tu, créature d'un jour?
Mais d'abord, que fais-tu là-haut? Je t'en conjure, dis-le-moi!
Je marche dans les airs et regarde le soleil.
Alors c'est d'une corbeille que tu regardes de haut les dieux et non de la terre au moins?
Jamais, en effet, je n'aurais pu démêler exactement les choses célestes si je n'avais suspendu mon esprit et confondu ma pensée subtile avec l'air similaire. Si j'étais resté à terre pour observer d'en bas les régions supérieures, je n'aurais jamais rien découvert. Non, non, car la terre forcément attire à elle la sève de la pensée. C'est exactement ce qui a lieu pour le cresson.
Mais que dis-tu? La pensée attire la sève dans le cresson? Mais voyons, descends, mon petit Socrate, vers moi, afin de m'enseigner les choses pour lesquelles je suis venu.
Et tu es venu dans quel dessein?
Mais je veux apprendre à parler. Et par le fait des intérêts et de créanciers intraitables, je suis pillé, saccagé. Mais enseigne-moi l'un de tes deux raisonnements, celui qui ne restitue rien. Et quelque salaire que tu exiges, je jurerai de te le payer par les dieux.
Les dieux? C'est par eux que tu jureras. D'abord les dieux, cette Molena n'a point de cours chez nous. Veux-tu connaître les choses divines clairement et savoir ce qu'elles sont au juste?
Ah oui, par Zeus, s'il y a moyen.
Entrer en relation et converser avec les nuées, nos divinités à nous?
Absolument.
Assieds-toi donc sur le grabat sacré.
Voilà.
Prends à présent la couronne que voilà.
Et pourquoi une couronne? Ah, Socrate n'allait pas faire de moi un autre Athamas et me sacrifier.
Non, mais tout cela, nous le faisons à ceux qui se font initier.
Mais après, qui gagnerais-je?
Tu deviendras un roué de la parole, une cliquette, une fleur de farine. Mais ne bouge pas.
Oh, par Zeus, tu ne me tromperas point. Ainsi poudré, je serai fleur de farine.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h17. Qui a tué Socrate? C'est l'enquête philosophique que nous menons cette semaine. Et aujourd'hui, c'est l'historien Paulin Ismar qui vient tenter de répondre à cette question en nous présentant l'affaire Socrate. Les Nuées d'Aristophane sont une des, sinon la première apparition de Socrate dans nos sources. Sur la scène du théâtre athénien, dans les Nuées, c'est joué pour la première fois à Athènes en moins 423. On y entend un Socrate caricaturé, moqué, ce qui montre qu'il est déjà suffisamment important pour qu'on puisse en faire le personnage principal d'une pièce. Et ici, c'est assez amusant puisqu'on a donc Strepsiade qui peine à subvenir aux besoins de sa famille, qui se fait poursuivre par ses créanciers, qui va voir Socrate pour lui apprendre à manier le discours de manière à pouvoir se retourner contre ses créanciers. Voilà à quoi servirait la parole de Socrate. C'est un usage très pragmatique et très ironique aussi pour Ismar.
Oui, alors effectivement, c'est la mention la plus ancienne du personnage de Socrate dans nos sources. Ce qui est intéressant, c'est que cette année-là, 423, quand les Nuées sont jouées à Athènes, une autre pièce, écrite par un certain Ameipsias, fait aussi de Socrate son personnage principal. Et ça montre effectivement la popularité de la figure socratique, mais qui en même temps pose manifestement problème déjà dans la cité. Alors ce qui est très compliqué avec ce l'usage, disons, qu'on peut faire des nuées d'Aristophane, notamment pour comprendre le procès de 399, c'est que si on suit Platon dans l'Apologie, il y a une filiation directe entre la représentation de Socrate dans les nuées et le procès de 399. Platon, enfin Socrate, chez Platon, en fait même la première accusation qui aurait été lancée contre lui.
Précisons que l'Apologie est un texte écrit par Platon qui met en scène Socrate lors de son procès.
Oui, tout à fait. Et donc, on ne sait pas très bien quand, mais peut-être 10, 15, 20 ans après le procès de 399. Le problème, c'est que le Socrate qu'Aristophane représente en 423 n'a rien à voir avec le Socrate qu'on connaît par ailleurs grâce aux œuvres de Platon, de Xénophon, bref, ce qui a été écrit par ses disciples. Et en réalité, on a plutôt l'impression chez Aristophane que la figure socratique, qui est effectivement moquée dans la pièce, sert en réalité à dénoncer de manière beaucoup plus large les sophistes qui exercent leur talent dans l'Athènes des années 430-420. C'est-à-dire qu'il y a des propos qui sont imputés à Socrate dans les nuées d'Aristophane, mais qui en fait visent peut-être plutôt des hommes comme Anaxagore, peut-être même Protagoras. Donc on a plutôt l'impression que c'est Socrate le sophiste, au sens large, qui est visé dans les nuées d'Aristophane, sans que ça puisse renvoyer à quoi que ce soit de la figure réelle du Socrate philosophe.
Oui, parce qu'on le présente comme un gourou qui dirige une secte, qui fait payer son enseignement, ce qui était là pour le coup faux. Comme si, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ce que les nuées d'Aristophane mettent en scène, peut-être l'autre texte dont vous parliez, d'Amaipsas, sa pièce Konos, c'est en fait une accusation comique du rôle de l'intellectuel même? Ou alors est-ce que c'est uniquement ceux qui sont dissidents par rapport à la cité?
Non, c'est effectivement, ça vise, disons, les intellectuels ou ces nouveaux intellectuels que sont les sophistes. Il y a un grand bouleversement dans la vie intellectuelle et sociale athénienne qui est l'arrivée, la naissance de la sophistique à partir du milieu du 5e siècle avec ces grands personnages que sont, qu'est par exemple Protagoras, c'est-à-dire ces hommes qui se mettent à enseigner toute forme de savoir en les faisant payer, parfois dans des espaces publics, le plus souvent dans la demeure même des familles athéniennes chez qui ils enseignent. Bon, et ça, c'est une nouveauté, manifestement, les sophistes, et ça trouble une grande partie des Athéniens. Pour les Athéniens, vu de loin, Socrate est un sophiste comme les autres. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et c'est pour ça que Aristophane le moque, et surtout, 70 ans après la condamnation de Socrate, on a un plaidoyer athénien qui évoque le procès, écrit par un grand orateur de l'époque classique qui s'appelle Échine, et il s'adresse aux Athéniens et il dit: vous avez condamné Socrate le sophiste. Donc pour les Athéniens, aussi bien avant 399 qu'après le procès, Socrate est un sophiste. Il fait partie de cette nébuleuse complexe qu'est la sophistique. Alors que nous, évidemment,
On distingue très vite, quand on étudie la philosophie, la distinction justement entre philosophie et sophistique. Est-ce que l'une serait une quête de vérité quand l'autre serait au contraire un art de manier le discours? Alors là, deux écoles s'affrontent, qui a raison, peu importe, mais c'est amusant de voir que Socrate est réduit, parce qu'il le vivrait comme ça, à ses détracteurs, en fait, dans sa pièce.
Mais c'est vrai que, d'une certaine manière, Socrate est un sophiste. C'est-à-dire que, il prodigue un savoir, non, qui se donne a priori comme non spécialisé dans des espaces publics, ce que font pas tous les sophistes, un savoir qui ne repose pas sur le modèle de l'initiation, qui s'adresse à des jeunes gens qui appartiennent à l'élite athénienne. Tous ces éléments-là en font effectivement un sophiste. Il y a aucun doute là-dessus. Et en même temps, il y a évidemment des traits propres à la philosophie socratique et surtout à l'enseignement et la façon dont Socrate conçoit son enseignement qui le distingue de la plupart des sophistes.